France Inter, le 18-20.
Ça commence souvent comme ça, le téléphone sonne. Vous tombez sur un papier au hasard de pérégrination dans la presse. Et puis, il y a cette femme qui témoigne, parce que souvent, ce sont des femmes, et qui explique qu'elle va jamais au resto toute seule parce que, vraiment, ça fait pauvrette, sans mari, sans mec, sans ami, sans curly, rien. Et puis, vous levez la tête. Elle doit pas être toute seule, cette femme. Chez les hommes, d'ailleurs, ça existe aussi. Moi, j'y vais toute seule au resto. Plutôt les brasseries, d'ailleurs, à vrai dire. Et sinon, le ciné tout seul, bah oui, pourquoi pas. Le théâtre aussi. Les vacances, bah, sinon, on fait quoi? On reste chez soi. Devant le canapé, solo, c'est quoi? Solo, c'est la moitié de Paris, c'est la moitié de toutes les grosses métropoles. Solo, c'est avec enfant, sans enfant, c'est par habitude, c'est par goût, c'est par hasard, c'est parmi tant d'autres. Solo, c'est découvrir qu'on est un produit marketing vendeur, puisqu'on vous conseille à peu près à tous les coins de rue tous les célibataires qui sont auprès de chez vous. Mais solo, c'est surtout si je veux, quand je veux, avec qui je veux. Solo, c'est la paix avec soi-même, c'est faire taire ceux qui vous veulent du bien, ceux qui vous envoient un regard de pauvre chose. Solo, c'est quand vous allez toute seule au ciné, par exemple, c'est être égoïste. Par exemple, eh bien, soyons-le, tiens, vive les égoïstes pour ce soir au téléphone sonne.
Fabienne Sintès, le téléphone sonne.
Et bonsoir Joël.
Bonsoir.
Voilà, je disais tout à l'heure qu'il y avait surtout des femmes, vous tombez bien, donc vous qui êtes le premier, soyez le bienvenu.
Donc, j'aime être seul. J'aime partir en vacances tout seul. Ça fait depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 62 aujourd'hui. Et tous les ans, je pars au moins un mois seul. Je suis marié depuis 23 ans. Je laisse mon mari seul à la maison. Je lui téléphone quand je suis en voyage. Mais en même temps, quand on est seul, on fait des rencontres. Je sais pas, vous avez déjà voyagé avec des amis ou des copines. Quand on est seul, quand on est à deux, on a moins, on est entre soi, on est moins ouvert vers les autres. Et quand on est seul, eh ben, on va vers les autres parce que on reste pas non plus tout seul sans parler, sans discuter. Donc on est plus ouvert aux rencontres, et ça, je trouve ça magique, et j'en ai besoin pour mon équilibre. Je me moque totalement d'aller dans un resto seul, je me moque totalement d'aller à l'opéra tout seul, et c'est extraordinaire. Et quand je rentre, bah, je suis heureux de retrouver mon mari, je suis heureux de rentrer, mais ce moi seul, c'est ma bouffée d'air.
Et alors Joël, la première fois que vous avez dit à votre homme, t'es gentil, mais moi pendant un mois je vais disparaître, et ça c'est à prendre ou à laisser, il l'a vécu comment?
Et bien, il fait la gueule à chaque fois.
Ah, quand même.
Oui, il râle.
Oui.
Bah oui, ce qui est normal. Mais il sait en même temps que bah, j'en ai besoin. Donc c'est quelque chose qu'il a accepté parce que c'est j'en ai besoin pour mon équilibre intérieur. J'ai besoin d'être, de partir, de voir d'autres gens, de voir d'autres horizons et de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Et ça, on ne peut le faire, je trouve, que seul parce que je voyage bien sûr avec lui. Mm-hmm. Mais quand on est deux, bah, on est entre nous. Donc on est beaucoup moins accessible aux autres.
Mais du coup, est-ce que lui s'y est mis aussi pour découvrir ce que vous y trouviez, vous? Ou est-ce que lui considère qu'il s'ennuie terriblement pendant tout un mois quand vous n'êtes pas là?
Il téléphone tous les jours où que je sois. Non, il s'ennuie. Il peut pas voyager seul. Lui, il ne peut pas. Je l'ai jamais vu. Je lui dis, mais pars, prends 15
mais
jours
j'attends.
Par seul.
Et ben je non, t'en supplie.
Non, il veut pas. Donc, je pars seul.
Bah, écoutez, vous avez trouvé un bon modus vivendi, en tout cas, Joël. Merci beaucoup.
Et ça marche, 23 ans de vie commune, c'est bien.
Vraisemblablement, effectivement, vous l'avez toujours retrouvé quand vous êtes rentré. C'est ça
exactement.
Qui est enfin, là où vous l'avez laissé en partant, dites-moi.
Oui, puis je préviens avant de rentrer, vous savez.
Oui, vous faites bien. Ouais. Téléphonez bien deux jours avant, parce qu'il faut au moins ça.
Exactement.
Merci, Joël. Merci beaucoup pour cette entrée en matière et pour discuter avec nous au cours de ce téléphone sonne ce soir. Bonsoir, Fabrice Midal.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous avez écrit Sauvez votre peau, devenez narcissique. Vous avez aussi écrit Foutez-vous la paix, commencez à vivre, tout ça c'est chez Flammarion. Il est très joyeux le témoignage de Joël, Fabrice Midal, et moi j'aime bien cette idée que lui il en a besoin, alors pas tout le temps, c'est pas une question d'être un ours du tout, c'est de temps en temps on a besoin de se ressourcer et pour faire ça, il faut être face à soi-même.
C'est vrai, c'est tout simple, il y a des moments où on a besoin d'être seul, enfin on a besoin certaines personnes, mais juste c'est important que quand on a besoin d'être seul, on puisse trouver la possibilité de l'être. Alors là, il y a une possibilité de partir un mois, ça peut être juste de prendre un moment pour aller prendre le temps de trouver son propre rythme. Par exemple, vous parliez du cinéma ou d'aller écouter un concert. Moi, j'aime bien aller écouter les concerts tout seul parce que je trouve que je suis plus à l'écoute de mon propre rythme. Et je trouve que c'est important. Vivre dans une société, on a tellement d'injonctions, ce que j'essaie de décrire dans Foutez-vous la paix, on a tellement d'injonctions que des fois de se retrouver seul au début, on panique un peu.
Mais y compris l'injonction du deux d'ailleurs, oui, y compris l'injonction d'être deux, parce que ce que dit Joël dans l'idée que moi je m'en fous d'aller au resto tout seul, à l'opéra tout seul, il a raison. Après il y a le regard des autres aussi qui est sur vous. C'est pas vous le problème. Le problème c'est la manière dont on vous regarde, on a l'impression. Clair. Non,
même si au début on a au début on a un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on est justement pas dans la norme. Mm-hmm. Et après on se rend compte à quel point c'est tellement fondamental de se foutre la paix, d'être à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Et voilà, au fond, c'est qu'est-ce qui est juste pour nous. Et si on ne respecte pas ce qui est juste pour nous, c'est vraiment, on le paye cher. Et après, je crois qu'il serait intéressant de distinguer d'être isolé de la solitude. Mm-hmm. Être isolé, c'est être coupé des autres, ne pas avoir de relations. La solitude, c'est trouver un équilibre avec soi. Et comme le racontait Joël, il rencontre plein de gens. Le fait d'être, de toucher la solitude ne nous sépare pas des autres, au contraire. Et là, je crois que c'est une différence qui est importante. Et peut-être que nos sociétés souffrent beaucoup de l'isolement parce qu'on a perdu le sens de la solitude.
Et parce qu'on n'ose pas y aller aussi vers les autres dans ces cas-là ou pas ?
Ben, oui, et on n'ose pas aller vers les autres. Et là aussi, vous savez, c'est quand on est seul et qu'on croit qu'il faut qu'on rencontre quelqu'un, on veut tellement rencontrer quelqu'un que tout le monde vous fuit parce qu'on a peur de la demande que vous faites. Et donc là, c'est crucial. Foutez-vous la paix. Accepter d'être seul, c'est au fond la meilleure manière de rencontrer quelqu'un.
Et est-ce que c'est pas aussi la peur de la demande, qu'est-ce que tu fous tout seul au fond ?
Absolument. C'est ça aussi. Mais je crois, d'abord, quand on veut vraiment rencontrer quelqu'un, cette volonté, les gens que vous rencontrez se disent « mais je vais jamais réussir à répondre à cette demande ». Et donc, en devenant ami avec votre propre solitude, le rapport aux autres est beaucoup plus libre. Parce que vous ne leur demandez pas d'être là comme une sorte de babysitter ou quelque chose. Et c'est ça que, de manière un peu provocante, j'appelle « soyez narcissique ». C'est pas du tout le sens habituel qui est devenu une insulte, mais c'est le mythe de Narcisse qui était un mythe d'innocence, de la nécessité de se rencontrer, parce qu'au fond, malgré tout ce qu'on raconte quand on lit le mythe de Narcisse chez Ovid, c'est vraiment le bonheur de se rencontrer enfin pour éclore, pour laisser la fleur de Narcisse éclore en soi. Et c'est ça que je crois crucial aujourd'hui.
Et c'est aussi un message vers les autres, d'ailleurs, qui ont plutôt tendance à dire « viens avec nous, puisque t'es toute seule, pauvrette ». Non, merci, mais tout va bien. Enfin, c'est pas forcément une fatalité.
Ah oui, puis être seul, c'est découvrir des ressources en nous qu'on avait oubliées, des goûts qu'on avait oubliés, des envies qu'on avait oubliées. Donc au début, on est un peu inquiet, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul ? Et après, on découvre « ah oui, mais c'est ça mon rythme, c'est ça ». Et ça, je crois que c'est très important.
Bonsoir Jessica.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Jessica.
Eh bien, moi j'ai téléphoné simplement pour témoigner que je suis célibataire depuis 4 ans. Et après 8 ans de mariage, j'ai eu 2 enfants. Donc je savoure pleinement mon célibat. J'ai passé 8 ans à faire des concessions, à faire beaucoup de choses toujours avec mon mari. De temps en temps, on était éloignés pendant une semaine, ça faisait beaucoup de bien. Et depuis que je suis séparée de mon ex-mari, je profite de ces célibats.
En vous écoutant, Jessica, excusez-moi, je comprends pourquoi vous vous êtes séparée en même temps,
oui,
en creux.
Pour lire, pour aller au cinéma, pareil. Parce que même pour lire toutes les œuvres qu'on a à lire, une vie ne suffit pas. Donc j'en profite vraiment au maximum.
Est-ce que vous étiez seule avant ces 8 ans de mariage, Jessica, ou est-ce que vous êtes parmi ces gens, il y en a beaucoup, qui finalement ont toujours été à deux, ou quasiment à deux, ou c'était juste après les parents, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous aviez déjà savouré et que donc vous vouliez revenir aussi à ce que vous aviez vécu avant ?
Alors, j'étais célibataire depuis un an avant de connaître mon ex-mari. Et c'est vrai que j'étais assez solitaire pendant plusieurs années, mais déjà quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que je vois les gens, je les côtoie tous les jours, c'est très agréable. Mais quand je suis seule, si je devais même envisager, si je tombais amoureuse de quelqu'un, c'est chacun chez soi. On respire.
Et on a déjà fait ce téléphone sonne sur les couples et le chacun chez soi, effectivement, Jessica, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Merci pour votre témoignage, Fabrice Midal. On sent chez Jessica l'idée que, on a besoin de souffler à un moment, après une période, qu'elle soit longue ou courte, peu importe. C'est le besoin de souffler dont elle nous parle, Jessica.
Parce qu'elle raconte très bien comment elle se sacrifie. Elle a sacrifié ses goûts, elle a sacrifié son rythme, et on est une société extrêmement sacrificielle. Ça ne se montre pas, mais quand même beaucoup des injonctions, c'est « sacrifiez-vous ». Et je crois que ça, c'est vraiment un étouffement énorme. C'est ça qui me semble. À un moment, il faut sauver sa peau de cette ambiance sacrificielle. Mm-hmm. Et la solitude, c'est un moyen extraordinaire de se retrouver. Et ce que me faisait penser son témoignage, C'est une phrase du poète Rilke dans les lettres à un jeune poète. Il dit « Aimer quelqu'un, c'est pas du tout une perspective fusionnelle, c'est devenir un monde par amour de l'autre. » Et je crois que ça, c'est quelque chose de très vrai. Peut-être qu'il faudrait réinventer les couples en trouvant un rapport de solitude, qui peut être de pas vivre ensemble ou de vivre ensemble, mais trouver des moments où on trouve l'espace pour être soi avec l'autre. Et je crois que comme c'est pas du tout ce qu'on a une image de l'amour extrêmement fusionnelle, romantico, un peu niaise. Du coup, on a l'impression qu'il faut être tout le temps ensemble, et encore dans cette perspective sacrificielle. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'intensité de cette perspective. Il faudrait être altruiste, il faudrait être sacrificiel. S'occuper de soi, ce serait mal, ce serait contre les autres. Alors en réalité, c'est tout à fait ce qu'on essaye de montrer. C'est le philosophe qui parle, mais c'est une préconception. Quand je suis en rapport avec moi, je suis d'autant plus ouvert avec les autres.
Fabrice Midal, est-ce que c'est plus facile? On a l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est plus facile pour une femme que pour un homme de vivre seule ou pas?
Ah, je crois que les femmes étant plus, ayant plus pris le temps de se rencontrer et de s'écouter, elles sont moins terrifiées de la solitude, elles en ont moins peur. Que les hommes. Moi, quand j'enseigne des séminaires de méditation, je vois les hommes ont beaucoup plus souvent peur de cette idée de rester seuls avec eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver.
Qu'ils vont pas s'aimer, en fait. Parce qu'on est en face de soi.
Ça fait peur. On a l'impression. Ah oui, exactement.
Bonsoir, Martine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Martine. On vous écoute.
Merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment ravie de ce que j'entends pour l'instant parce que je trouve qu'il y a vraiment un discours très positif qui est porté sur l'état de célibat, et c'est vraiment ce que je vis moi aussi. Alors c'est un cheminement que j'ai fait. J'ai divorcé il y a quelques années et je suis passée par une étape de célibat subi avec. Oui, j'avais l'impression de subir un peu une pression de la société, mais c'était peut-être aussi une image que je me faisais ou des idées que je me faisais. J'ai cherché à tout prix à refaire ma vie assez vite. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et finalement, en cheminant, je me suis aperçue que ce qui me correspondait peut-être mieux, c'était d'être seule et de pouvoir être à l'écoute de moi-même, comme le disait votre intervenant, d'apprendre à me connaître et d'apprendre à connaître vraiment mes véritables besoins. Et aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, j'arrive à trouver une vraie liberté intérieure en étant seule, en m'écoutant, en faisant ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Et cette liberté-là, elle est extraordinaire, je trouve.
Et ça prend combien de temps? Ça vous a pris combien de temps, Martine? Parce que vous dites assez bien, et on en parlera tout à l'heure avec Fabrice Midal, qu'au début, et longtemps, et souvent, je sais pas, il y a la pression de la société qui dit « Mais pourquoi tu n'essaies pas de refaire ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sors avec nous, etc. etc. » En combien de temps, selon vous en tout cas, vous avez réussi à vous affranchir de tout ça?
Ça m'a pris plusieurs années. Mais je dirais que je peux même pas dire que j'ai subi vraiment une pression de la société. J'ai plutôt l'impression que je me suis libérée d'une idée que je me faisais de cette pression. J'avais l'impression de devoir absolument correspondre à l'image qu'on attendait de moi. Et finalement, j'ai, en cheminant, en subissant aussi des échecs dans des relations, j'ai fini par me libérer de cette idée. Et aujourd'hui, je suis, comme le premier intervenant, complètement. Enfin, je m'en fous du regard des autres. Et au contraire, je suis presque dans une position militante. J'ai envie de dire, mais non, être célibataire, c'est pas être sans compagnon, c'est être dans un autre état dans lequel il y a des avantages et des inconvénients, mais dans lequel il y a des vrais avantages et des vraies opportunités. Et notamment cette liberté qu'on peut avoir d'aller vers les autres, de penser à soi, de faire ce qu'on aime quand on a envie de le faire. Après, la vigilance que j'ai toujours, c'est cette crainte de basculer vers une forme d'égoïsme.
C'est de fermer les portes, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de place pour qui que ce soit, parce qu'on a bien fermé les portes autour de soi.
Les portes, ou alors faire vraiment ce qu'on veut, quand on le veut, et du coup, ne plus supporter d'être avec l'autre qui va venir vous confronter aussi, parce qu'il est différent, il n'a pas forcément le même rythme. Moi, j'ai le souvenir d'une balade à vélo que j'ai faite avec une copine. Moi, quand je vais faire du vélo, j'ai envie d'aller vraiment vite, et puis je m'éclate, j'ai ma musique dans les oreilles, et c'est super. Hein. Et puis, je suis partie avec cette copine, elle roulait beaucoup plus lentement, je me disais, non, d'une pipe, elle avance pas. Et puis, ça m'a fait prendre conscience que finalement, être avec l'autre, c'est aussi important qu'on peut assez facilement s'enfermer dans un fonctionnement un peu égoïste. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir cette vigilance-là.
Merci beaucoup, Martine. Fabrice Midal, il y a deux choses, moi, que je retiens dans ce que dit Martine. D'abord, effectivement, le temps qu'il faut pour s'affranchir des autres.
Oui.
En fait, s'affranchir du regard des autres, s'affranchir de ce regard où on se dit, on me regarde comme une pauvrette parce que je suis là en train de bouquiner en mangeant toute seule. Il y a ça, et puis il y a effectivement ce qu'elle dit à l'instant. À un moment, il ne faut pas non plus qu'il y ait la place pour personne, en fait, que ce soit quelqu'un dans sa vie ou des amis.
On pourrait dire à l'inverse, si on n'est pas seul, est-ce qu'on a un rapport réel aux gens ? On voit des fois dans les restaurants des gens qui sont seuls, mais on voit aussi des gens qui sont en couple avec leur téléphone portable, et on a l'impression que c'est encore pire. Donc, il faut aussi se libérer de cette idée qu'on est avec quelqu'un, on est forcément avec quelqu'un. Et vraiment, je crois que cette liberté intérieure permet une rencontre vraiment riche avec les autres. Je crois qu'au fond, il faudrait nous libérer de l'opposition entre d'un côté on serait égoïste, de l'autre on serait ouvert aux autres. Je crois que cette opposition, qui a l'air évidente, est complètement fausse. On peut être ouvert aux autres, mais en réalité sans être présent, sans être disponible, comme les gens qui sont avec leur téléphone pendant tout le repas. Mmh. Et on peut être seul en étant en relation avec ce qui se passe, en étant en communion avec ce qui se passe.
Il y a ce message de Maurice sur franceinter.fr qui nous dit « Les couples ne savent pas comment se comporter avec les gens seuls ». C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Ah, ça, c'est très important. Ça, c'est une très, très juste remarque. Parce qu'ils ont l'impression, justement, que c'est une déficience.
Donc, viens avec moi, puisque tu es seul.
Oui,
viens.
Ou alors on a l'impression qu'ils sont un peu... Voilà.
Inviter forcément quelqu'un à dîner, parce que sinon, ça fera un nombre impair, etc.
Voilà. Et alors que non. Que vraiment... C'est vraiment étrange parce que notre société vit avec une sorte de même de terreur devant la solitude. Mmh. Et c'est marrant parce que tous les poètes depuis l'histoire antique chantent la solitude comme un espace de libération et de profondeur. Et je crois que dans la profondeur, dans la solitude, on touche aussi son cœur. Il y a à la fois cette liberté intérieure, mais aussi on touche son cœur, on touche sa propre tendresse.
Mais vous dites qu'il y a une terreur devant la solitude. Pourquoi est-ce qu'on est aussi terrorisé par la solitude ? Parce que terreur, c'est quand même un sacré mot.
Oui, parce que je crois qu'on a une terreur parce que donc il y a cette pression. Et l'auditrice disait, elle a pas l'impression qu'elle a la pression. Après, elle disait, mais je vais correspondre à une certaine image. Donc c'est ça. L'image est tellement forte qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis il y a le silence. Mm-hmm. Il y a le fait d'avoir un moment d'espace. On est surexcité en permanence. Mm-hmm. Moi, je me souviens, mes grands-parents, ils regardaient le feu de cheminée le soir. Ils n'avaient pas besoin de faire un selfie pour l'envoyer à tous leurs copains. Mm-hmm. Ils étaient là. Mais nous, quand prenons-nous le temps d'être seul 10 minutes?
Et puis on peut se parler tout seul. Moi, je me parle toute seule très souvent. Je suis hyper d'accord avec moi, d'ailleurs. C'est ça qui est super.
On n'est pas toujours d'accord avec soi. On est aussi surpris. Mais des fois, moi, souvent, quand je suis seul, je suis même surpris de mes états d'humeur. Des fois, je me lève le matin, je suis tellement étonné, je suis de bonne humeur, puis des fois, je me lève, je suis de mauvaise humeur. Il y a un côté burlesque d'être avec soi. On a l'impression qu'être avec soi, c'est fermer sur soi-même. Mais en réalité, on est toujours un peu surpris. Vous êtes toujours d'accord avec vous, mais en fait, souvent, on est un peu étonné de ce qu'on sent.
Oui, on s'engueule le matin, dépêche-toi.
Oui. Puis on est surpris de ce qu'on sent. On est surpris de ce qu'on ressent. Moi, j'aime bien aller au concert tout seul. Quand je vais au concert tout seul, je suis plus à l'écoute de la musique, je ne suis pas enfermé en moi-même. Ça me permet d'être plus en communion avec la musique. Moi, après, il y a aussi un autre cas de figure. Moi, je suis hypersensible depuis que je suis enfant. Quand on est hypersensible, c'est important d'un moment d'être seul. Parce que sinon, Et donc, moi, je suis hypersensible. Quand j'étais enfant, c'était vraiment pénible. Mes parents allumaient la télévision, je pleurais. Ils disaient, mais tu te crois sur une scène de théâtre? C'était assez traumatisant. Et avec le temps, j'ai appris à faire la paix avec ma propre solitude, à me foutre la paix, à accepter un peu ce que je suis. Et je sais, par exemple, quand je suis avec des gens, qu'à un moment, j'ai besoin d'être seul. Sinon, j'étouffe. Je sens que... Et après, je suis épuisé.
Tiens, cette remarque sur franceinter.fr, je suis VRP, donc tout le temps sur la route. Je profite d'être seul pour écouter mes podcasts, Radio France principalement, nous dit-il, il a tellement raison. Pour le cinéma, de toute façon, on est dans le noir et on parle pas. Du coup, je vois pas l'intérêt d'y aller en groupe, ce qui est finalement assez vrai. On peut en parler après, mais enfin pendant. Quel intérêt ?
Après, ça peut être aussi très beau d'y aller avec la personne qu'on aime. Il y a une communion qui a lieu. Mais il y a une communion qui a lieu. Moi, quand je vais au cinéma, souvent, je sens l'énergie de la personne avec qui je suis.
Juste une manière de dédramatiser, en fait, ce que nous raconte ce monsieur, je pense.
Et une fois, c'est bien, mais des fois, c'est formidable. Moi, ce que je voudrais montrer, des fois, c'est formidable d'y aller avec quelqu'un, c'est formidable d'y aller avec des amis, c'est formidable d'y aller tout seul. Et c'est une autre expérience qu'on fait.
Bonsoir, Gina.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Gina, soyez la bienvenue.
Voilà, et ben, c'était pour vous dire que, justement, d'être seule, c'est génial. J'ai appris ça il y a très très longtemps, j'ai 56 ans et ça m'a pris depuis quand j'avais 24 ans, après une expérience malheureuse de cohabitation avec un petit ami. Et finalement, je dois le remercier à l'heure actuelle, parce que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas compris ça il y a très longtemps. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai des amis, il faut savoir avoir des amis aussi, pour être seul. Donc on est beaucoup moins seul, mais quand on est seul, on est bien.
Voilà. Et ça veut dire que vous seriez incapable de ne plus être seul, Dina, en fait, en gros. Est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres gens ou pas du tout?
Ah mais oui, justement, avec les amis. Alors, les amis. Vous les voyez quand vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais avec donc ce petit ami, j'étais seule parce qu'il me coupait de tous mes amis, les amis que j'avais avant. Et ça, c'était terrible, quoi. C'était vraiment... voilà, j'étais seule à deux. Et depuis que je suis toute seule, je ne suis plus seule.
Voilà, ça c'est magnifiquement dit.
Et ben voilà, la formule, on va la garder. J'étais seule à deux, et depuis que je suis seule, je ne suis plus seule, c'est Dina.
Ça. Mais il faut avoir des amis. C'est-à-dire que je comprends très bien que les gens qui n'ont pas d'amis, ça doit être terrible. Voilà.
Et souvent, on n'a pas d'amis. Parce que on est justement, comme vous décriviez très bien, on est dans une relation de couple et du coup on est isolé, coupé, et le fait de devoir être seul ouvre des possibilités de rencontres complètement étonnantes.
Merci Gina, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure d'ailleurs, Fabrice Midel, la différence entre être seul et être isolé, qui sont absolument deux choses absolument différentes. Est-ce que le risque en vieillissant, simplement, c'est pas ça la crainte finalement en vieillissant, c'est pas passer de seul à isolé, parce que c'est plus compliqué quand on est plus vieux que quand on est jeune, ou pas?
Il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui, des logements solidaires. Moi, je trouve ça intéressant, les logements solidaires entre générations qui sont en train de développer, où tout en gardant la solitude, les personnes âgées accueillent des étudiants chez eux. Je trouve que c'est une très belle idée. Vous voyez, c'est des nouvelles formes. Au fond, la solitude permet des nouvelles formes de sociabilité qu'on a tendance à oublier. Donc, je ne crois pas que le problème se pose... Moi, je connais des personnes âgées qui font un nombre de choses incalculables. Au début, devenant seules, ayant perdu leur mari ou leur femme, c'était très dur. Et après, j'en connais plusieurs qui ont trouvé un nouvel allant, fait des choses qu'elles n'auraient jamais faites avant, fait des voyages à plus de 80 ans à l'autre bout du monde. Enfin, on connaît beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Donc, je crois qu'il y a aussi quelque chose comme une liberté nouvelle qui apparaît.
Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de ciné, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de restaurants, parce que c'est pas la même démarche, c'est pas la même chose. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Racontez-nous.
Ben voilà, moi j'ai pensé mon restaurant pour aussi accueillir des personnes seules, donc j'ai fait le choix de mettre que des tables de deux. Et puis l'accueil des clients seuls, ça passe par mettre à disposition de la presse, faire en sorte qu'ils abandonnent leur smartphone ou leur tablette. Alors beaucoup viennent lire, hein, tranquille, voilà, ils s'installent et ils lisent. Mais sinon, on provoque la discussion, on demande aux gens ce qu'ils font dans la vie ou ce qu'ils ont fait dans la vie. Ce qui fait qu'on a beaucoup de femmes seules, mais on a aussi beaucoup de personnes âgées qui ont pris leur habitude et qui viennent. Après, le problème, c'est qu'on s'attache.
Voilà. Pourquoi le problème, c'est qu'on s'attache?
Parce que ça fait 30 ans là, que j'ai ouvert, et donc je vois des gens qui avaient 50, qui en ont 80 maintenant, et puis un jour, on ne les voit plus, et puis, on comprend un peu que voilà, ils nous ont quittés, quoi.
Est-ce que vous parlez plutôt du midi ou plutôt du soir, hein, Gérard? Parce que c'est pas la même démarche, aller tout seul au resto à midi ou y aller le soir.
Mais en fait, nous on a exactement ces deux types de clients-là, des gens qui viennent à midi. Alors peut-être plus de femmes parce qu'elles savent qu'elles vont être tranquilles, que personne ne va les importuner et puis qu'on va pouvoir un peu discuter. Et puis le soir, c'est un peu tout le monde, pas mal de gens qui sont de passage aussi. Et puis vraiment des personnes âgées qui n'ont pas envie de se faire à manger, qui viennent à 7h pile, qui repartent à 8h pour aller regarder la télévision ou vivre leur vie. Voilà.
Merci Gérard pour votre expérience, votre commentaire et votre accueil de ces gens donc dans votre restaurant de Lyon. Fabrice Midal, c'est vrai qu'il faut les repérer en fait, ces gens-là, pour éviter justement le passage, notamment pour les plus vieux que décrivait Gérard, de simplement être seul, à être purement isolé en fait.
Et oui, puis on voit même des restaurants qui ont des tables d'hôtes où les gens peuvent venir tout seuls et s'ils veulent ils parlent avec d'autres gens, ou s'ils veulent ils restent seuls. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se créer par rapport à ce changement de société.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Catherine, on vous écoute.
Merci beaucoup. beaucoup. Eh bien, donc moi, voilà ce que je disais à la dame que j'ai eue au standard, c'est que donc j'ai 50 ans. Avant, ça fait longtemps que je vis seule. J'ai des enfants, tout ça, mais donc je suis séparée maintenant. Et j'adore être seule. J'ai du mal, j'écoutais les autres témoignages, moi aussi, j'aime vraiment ça, j'aime faire de mon yoga, j'ai besoin de temps pour lire, écouter la radio, tout ça. Et souvent, je me trouve asociale un peu. Mais parfois, j'aime bien quand même aller dans des bars, des choses comme ça. Et avant, je le faisais volontiers, maintenant, je le fais de moins en moins.
C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'en vieillissant, vous vous trouvez plus incongru, c'est ça ?
Ouais, parce que ben moi, j'habite à Paris, hein, Paris au centre de Paris, où il y a plein de vie et tout ça. Et effectivement, je trouve que dans les bars, le soir, il y a des trentenaires et que je trouve pas ma place, quoi. Il y a vachement de bruit, il y a vachement de musique. Moi, j'ai envie d'être dans des endroits où je peux parler avec des gens autour d'un verre, quoi. Je sais qu'avant ça se faisait beaucoup, franchement, je le dis, autour de la drague, bien sûr, mais il y a pas que ça. Je me suis fait plein d'amis dans les bars, alors que maintenant de toute façon j'y vais plus, quoi, en fait.
Merci, Catherine. Moi, voilà. Je suis dans la team Catherine sur cette affaire. En fait, c'est plus dur en vieillissant que quand on a 30 ans d'aller dans un bar le soir, honnêtement.
Ah, c'est clair, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Il y a peut-être d'autres manières de... C'est clair qu'à différents âges, il y a différentes manières de pouvoir rencontrer des gens. Hein.
Il y a juste un moment où il y a une incongruité dans le fait d'être seul n'est pas la même à 50 ou à 30 ou 40 ans, en fait.
C'est
objectivement.
Clair. Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est sûr.
Parce qu'on a l'impression, quand on écoute les témoignages et aussi quand je vous écoute, que finalement, quand on est vieux, bah ouais, c'est un truc, quand on est vieux, en fait, on est souvent seul, donc effectivement, on s'accommode, etc. Quand on est jeune, c'est marrant parce qu'on est encore célibataire et que du coup, on a encore la vie devant nous. Quand on est dans cet entre-deux que nous décrit Catherine, là, pour le coup, on est un peu dans le no man's land, non ?
Ah non, parce que là, on parle des bars, mais il y a plein d'autres manières d'avoir des relations. On peut faire partie de plein de clubs, il y a plein de choses qui se font de visites de musées à Paris.
Ah, mais ça, c'est le début de la vieillesse, excusez-moi, non, Fabrice Midal, mais alors ça, moi, ça me terrorise quand je vous entends dire ça, parce que je me vois inscrite à un club de bridge.
Non, mais entre le club de bridge.
Non,
entre le club de bridge et d'aller écouter, parce que ça vous intéresse, des conférences de philo, d'aller visiter des musées.
Ouais, ça y est, je suis vieille.
Non, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont vraiment passionnantes, de liens de sociabilité par rapport à ce qui vous passionne. Alors, je sais pas qu'est-ce qui vous passionne, vous. Mais, on est vieux si ça tout qu'on n'a pas envie de faire.
Vous entendez ce que je vous dis, la même chose que ce qu'essaie de nous dire Catherine, en fait.
Non, oui, mais moi, je pense que par rapport à ce que dit Catherine, il y a des âges de la vie. Donc, c'est sûr que moi, j'allais dans des bars quand j'avais 30 ans. Maintenant, moi, j'y vais plus. C'est sûr que, mais j'ai plus envie. J'ai d'autres envies. Donc, ce que je dis, oui, peut-être vous vieillissez, mais on a d'autres envies. Peut-être, il faut voir, mais pas, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie aujourd'hui? Je suis pas sûr qu'on ait aussi envie, parce que c'est contradictoire, parce que aussi elle dit que c'est bruyant, que c'est pas ça dont elle a envie. C'était bruyant avant aussi.
Mais parce qu'il n'y a pas de lieu, parce que c'est plus compliqué de trouver des lieux dans ce genre-là, probablement, parce que très très vite, en fait, c'est soit effectivement le bar de jeunes où il y a de la musique à fond, ou alors c'est le truc où on joue au bridge.
Ah non, entre les deux, il y a plein d'autres choses. Non, mais là, je suis pas d'accord. Il y a plein d'autres choses entre les deux. Il y a plein de choses selon les passions qu'on a. Après, voir qu'est-ce qui la passionne. Moi, par exemple, je m'intéresse à la... comme je disais, j'aime beaucoup la musique. Mais je rencontre plein de gens en allant écouter des concerts. Je vais souvent seul, mais du coup, je parle souvent avec les gens qui sont autour de moi. Et donc, non, mais moi, je n'irai pas dans un bar. Je préfère écouter de la musique aujourd'hui.
Bonsoir, Corinne.
Bonsoir.
Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, vous, on vous écoute.
Bah, je vais rebondir encore sur la vieillesse, parce que moi, j'ai 58 ans et je me retrouve seule là depuis 7 mois. J'ai eu une vie vraiment avec des hommes, avec des périodes seules, avec des hommes. Et le dernier homme, il était hors de question que je sois à la retraite avec un homme. Moi, ça m'étouffait. Donc, il était évident que je voulais vivre seule. Mais maintenant que je suis seule, j'ai l'impression que
ce serait bien qu'il revienne.
Pardon ?
Ce serait bien qu'il revienne.
Ah non, pas du tout. Oh là là, quelle horreur. Mais donc du coup, moi je trouve que on parle du regard des autres, mais moi je crois qu'il faut surtout regarder son regard. Parce que aller au théâtre seul, j'y vais tout le temps, j'y suis tout le temps allée, comme ça je vais voir ce que j'aime. Aller au cinéma, c'est pareil, j'y suis toujours allée seule, mais je trouve que quand on est seul mais qu'on revient accompagné le soir, c'est pas mal.
Mmh. Mmh. Oui, je vois bien. Et puis quand vous sortez du théâtre ou du ciné, vous avez envie de discuter avec quelqu'un, voir si c'était bien ou pas, si vous avez aimé ou pas, etc. Finir la discussion.
Que je trouve que les femmes sont vachement plus courageuses que les hommes pour sortir, parce que quand on va au théâtre, au musée, etc., bon, moi j'habite dans une petite ville où tout est formaté, tout est normé, hein. Mm-hmm. C'est Annecy, ils sont tous sportifs, et du coup, quand on fait pas partie de ce genre de choses, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est le regard de soi-même qui est complètement différent. Moi, j'adorais être seule quand j'étais accompagnée, et maintenant, j'ai du mal un petit peu.
Et c'est normal, il y a toujours des hauts et des bas, évidemment, Fabrice Midal, c'est pas comme si tout était parfaitement linéaire. C'est peut-être plus difficile, d'ailleurs, comme le raconte Corinne, dans une petite ville que dans une grande métropole.
Ah, ça, c'est clair.
Un Paris, un Marseille, un Lyon,
c'est sûr. Après, c'est sûr, comment on trouve... La solitude, c'est une aventure. Ça, c'est ça, au fond. Être seul, c'est une aventure. C'est une aventure qui peut déboucher sur la liberté intérieure, mais ça demande un vrai travail. Et là, je crois que dans les témoignages, on voit bien. Vous avez raison, c'est pas facile. Mais la vie à deux non plus, c'est pas facile.
Une aventure aussi.
C'est une aventure aussi. Et je crois qu'il faut rendre à la vie... on est des êtres sociaux. La solitude, c'est pas nier la sociabilité. C'est d'essayer de trouver une manière de vivre la sociabilité à partir de la solitude. Et je crois que c'est vraiment... Mais je crois que la difficulté, pour que ce soit une aventure, c'est d'être suffisamment à l'écoute de ce qui nous, habite. Et je crois qu'on ne sait plus être à l'écoute de ce qu'on veut. Et c'est pas évident de savoir. Au fond, c'est bien d'être seul, mais si ça permet d'être plus à l'écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on sent, de ce qu'on a besoin...
À l'écoute de ce qu'on veut et pas dans le regard des autres, parce que c'est le sens de la question de cette auditrice ou auditeur, j'arrive pas à trouver son prénom, être seul au resto, au ciné, etc., est considéré comme suspect, dit-il ou dit-elle, ou bizarre pour la plupart des gens. Et c'est vrai.
C'est vrai.
Toujours aujourd'hui.
Ah, c'est absolument vrai.
Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir France Inter. Moi j'appelle juste pour un peu... compenser le consensus qui se fait jour.
Compenser, Bruno.
Je compense de suite. Et juste pour vous dire qu'en fait, j'ai l'impression que les gens qui ont témoigné, pour beaucoup, c'est le résultat d'un échec. Et donc, c'est finalement, ils ne vivent pas forcément une solitude ou un célibat choisi. C'est deux circonstances. Et bon, ils font avec, quoi. Mais moi, personnellement, je pense que la solitude, c'est... Enfin, pour moi, c'est une nécessité, des séquences. Mais je vis une vie de couple depuis un quart de siècle avec la même personne. Et sans forcément en parler, on a instauré une forme relationnelle qui fait qu'on a nos séquences, qui sont d'ailleurs pas du tout régulières ou formatées par un programme quelconque, où on se retrouve seul et ça se passe très bien. Et on n'en discute pas forcément. Chacun le vit comme il veut. Parfois, on peut communiquer là-dessus. En plus, ça permet de vivre des choses qui sont finalement excitantes. Je parle même du charme. Quand on est tout seul, on est plus relâché. C'est toujours agréable de se sentir exister en dehors d'un couple. Mais c'est très, très agréable quand on a fusionné avec quelqu'un de se retrouver et de vivre une vie de couple, mais pas l'un sur l'autre en permanence. Voilà, c'est juste... Après, il faut trouver la cohérence dans son partenaire.
Merci beaucoup, Bruno. Vous avez très bien compensé. Évidemment que l'idée, c'est pas de se dire que en couple, c'est horrible et
non,
tout seul, c'est formidable. Il a raison, Bruno.
À part qu'il y a une chose qui est gênante. Moi, ce qui me gêne de ce que dit Bruno, c'est de penser que les gens qui sont en solitude, c'est forcément un échec. Ce qui me gêne, c'est le jugement qu'il porte sur ceux qui sont. Et je crois qu'il faut. Il parle de son expérience formidable. Et ce que je voudrais dire, c'est ça. Foutez-vous la paix, vivez l'expérience que vous vivez. Et ça ne sert à rien d'essayer de juger à partir de sa propre expérience que vivent les autres. Il y a des gens qui sont seuls et ça leur correspond. Il y en a d'autres qui vivent en couple et ça leur correspond. Donc je crois que c'est vraiment vain d'essayer de culpabiliser les uns ou les autres. Parce qu'il y a aussi des couples... Il dit, les gens qui sont seuls, c'est subi. Mais c'est pas qu'ils l'ont voulu. Mais combien de couples aussi, c'est subi? Il y a des couples qu'on s'est mariés comme ça, il y a 20, 30 ans, est-ce que c'est encore... Donc les deux sont possibles, deux cas c'est possible.
C'est ce qu'on regarde au resto quand on est seul et on se dit que finalement, on n'en vit pas ceux de la table d'à côté.
Ben non.
Bonsoir Jessica.
Bonsoir.
On vous écoute Jessica, allez-y.
Merci. Alors, merci Bruno aussi, parce que je rejoins un peu son avis, même si c'est un peu différent pour moi. J'ai 28 ans et je considère aujourd'hui que être seule peut être un choix, au contraire, dans la vie, mais que c'est aussi très difficile pour les jeunes, et même dans de grandes villes, de se construire seule. C'est-à-dire que déjà d'un point de vue aujourd'hui financier, si vous n'avez pas un bon boulot, enfin la précarité, je veux dire, du quotidien, génère un tas de frustrations, de peurs et de choix subis qu'on s'impose nous-mêmes, qui sont complètement hallucinants. Et là où je le rejoins, c'est quelque part aujourd'hui les gens qui se mettent en couple font énormément de concessions pour plaire. Et je parle de ce côté, les 6 premiers mois, la séduction qu'on peut tous avoir à peut-être renfermer ce qu'on ressent vraiment ou ce qu'on pense vraiment pour pas décevoir. Et quelque part, par peur d'être seul, on est seul. On est vraiment, à beaucoup de moments, je pense, plus seul en couple qu'en étant célibataire. Mais c'est pour moi aussi moi j'ai ma grand-mère qui est veuve et je rejoins donc le troisième témoignage, c'est qu'elle a énormément vécu à partir du moment où elle s'est retrouvée seule, alors que pendant 5 ans ça a été l'horreur totale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a dû apprendre à 63 ans quelque part à découvrir ce qui lui plaisait vraiment. Et c'est ce que je trouve triste quelque part dans la société actuelle, c'est qu'on ne peut pas exister à côté de quelqu'un sans jugement de valeur, sans jugement de... Enfin, en tout cas, c'est une impression qu'on a tous.
Et c'est ça qui rend les choses compliquées parfois. La raison, Jessica, Fabrice Midal, c'est le regard de l'autre, encore une fois. Puis ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle nous explique, c'est que on a l'impression, et c'est le cas de tous les témoignages finalement, il y a un apprentissage de la solitude à avoir.
Ça, je disais, la solitude est une aventure. Ça implique de pouvoir se foutre la paix pour pouvoir se retrouver. Ça prend beaucoup de temps. C'est sortir des normes, sortir de la peur, et se découvrir. Et je trouve que c'est très beau le témoignage que sa grand-mère, elle a mis du temps à découvrir au fond ce qu'elle aimait. Combien de gens ne savent même plus à la fin ce qu'ils aiment. Et là, à cause à nouveau de cette idée du sacrifice qui devient si prégnante.
Tiens, il y a Coquelicot qui nous envoie ce message et il a raison de le souligner. 300 euros de supplément single dans les hôtels en France comme à l'étranger. Et c'est vrai que quand on part en vacances seul, on nous le marque sur le front au fer rouge parce que c'est plus cher que si on était deux, si on était quatre, encore plus.
Vu. C'est vrai, c'est rigolo, j'avais pas pensé à ça, c'est tout à fait vrai.
Ben ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là aussi, c'est une forme d'injonction ou c'est quelque chose qui dit, problème de riche. T'es seul, problème de riche.
C'est clair que dans les hôtels, si vous êtes tout seul, vous payez plus cher que si vous êtes à deux dans la même chambre. Et donc, quand on fait un voyage, il y a un supplément de chambre seule, puisque c'est la pure logique économique.
Et voilà, triste logique économique. Émeric, on a 20 secondes avec vous. Je suis désolé de vous presser, mais je suis ravi de vous avoir quand même. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi, je vis seul dans un petit village, 300 habitants, et je suis bien. Je peux me caler dans les champs et regarder au loin. Quand on disait se retrouver seul et tranquille, c'est vraiment ça, c'est se ressentir seul. J'avais une ex-copine, mais depuis qu'elle m'a quitté, je veux rester seul. J'ai vraiment découvert la solitude et ça fait vraiment du bien.
Eh ben écoutez, tant mieux, et tant mieux pour vous si vous êtes heureux. Ce qui ne veut pas dire que vous avez fermé des portes, Émeric, au final. Mais
ça va aider les gens, c'est tellement bien de pouvoir...
Non, mais j'ai toujours voyagé seul et maintenant c'est vraiment une envie, quoi. De voyager seul, on fait beaucoup plus de rencontres pour revenir à l'auditeur de tout à l'heure.
Eh ben écoutez, ça nous permet de boucler la boucle, en fait, le témoignage d'Emeric, effectivement, qui rejoint ce qu'on disait tout au début de ce téléphone sonne, Fabrice Midal.
Oui, la solitude, c'est peut-être une éducation centrale pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour être plus ouvert aux autres et au monde.
Oui, en tout cas, pas une tragédie. Et vous qui nous avez appelé, qui avez été très nombreux à nous appeler, vous nous l'avez rappelé, et c'est tant mieux.
C'est une belle leçon d'optimisme et d'espérance de parler de ça.
Tant mieux, Fabrice Midal, j'en profite pour rappeler que vous avez écrit « Sauvez votre peau, devenez narcissique », tiens, précisément, et que c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup à tous. Le 18-20, cette semaine, comme chaque semaine, c'est Amélie Stadelman, c'est Nathalie Poitvin, c'est Marie-Claude Pinson, c'est Fabrice Lègle, et c'est Antoine Liveau, le valeureux stagiaire, et c'est Tirex Domestique. Merci beaucoup, portez-vous bien.